de mon propos sera comme un certain nombre de défis. Défis pour la réflexion philosophique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un philosophe peut bien dire sur le bonheur, et à terme, aussi quelques petits critères très pratiques. De telle sorte que si tel ou tel d'entre vous, pour des raisons que j'ignore, était tenté de décrocher, je lui garantis que à la fin, tout le monde se retrouvera. Je veux dire que la fin de la conférence sera facile. Donc on peut s'attendre à 58 minutes de philosophie et 2 minutes de conclusion. Ceci étant, je commence en présentant donc la perspective qui est la mienne, que j'ai intitulée « Ce dont je ne parlerai pas ». Ça durera quand même 10 minutes. J'en demande pardon au doyen Boyancé, mais lorsque j'ai annoncé à mon épouse que je devais faire une conférence sur le bonheur, elle qui est très intéressée par les questions psychologiques, elle s'est aussitôt exclamée « Mais c'est la tarte à la crème !» Et de fait, m'étant un peu renseigné sur le sujet, j'ai vu que, si j'ose dire, le bonheur n'est plus une idée neuve. En Europe ou pas d'ailleurs. Tout le monde en parle. Et donc l'honnêteté, c'est de commencer par dire qu'il y a précisément d'autres regards sur cette question. Simplement, on parle volontiers du bien-être. Et il me semble qu'à lire un certain nombre de questions, enfin d'articles en fait, et de livres aussi sur le bien-être, d'une façon ou d'une autre, le bien-être, ça se sent ou ça se ressent. Souvent d'ailleurs ça se vend, semble-t-il, enfin où on fait comme si ça se vendait, alors que, c'est la perspective que je voudrais illustrer au travers de mon propos, le bonheur ça se vit, et j'entends évidemment creuser l'écart entre sentir, ressentir et vivre. En disant écart, je ne dis pas nécessairement que l'un chasse l'autre, je dis simplement que l'un n'est pas exactement l'autre. Mais alors, si le bonheur se vit, et si ça n'est pas sentir ou ressentir, j'ouvre tout de suite une voie pour penser quelque chose qui peut surprendre. Il n'est pas exclu que le bonheur ne soit pas toujours facile. Et il est possible aussi que le bonheur dépende profondément de nous, de chacun d'entre nous, veux-je dire. Alors que ce que je sens et ce que je ressens dépend très fréquemment du monde dans lequel je vis. Il y a des situations qui sont plus faciles à vivre que d'autres, c'est très clair. Mais si le bonheur dépend au moins largement de moi, alors il faut que je m'interroge autrement et voir quelles sont les ressources qui sont les miennes pour éventuellement vivre ce bonheur. La deuxième remarque que je voulais faire afin d'éviter au maximum les méprises, c'est ceci. Je ne parlerai pas de béatitude. Le chrétien, le théologien, peut, doit, parler du bonheur dans sa dimension définitive de participation à la vie de Dieu. Plus modestement, je parlerai d'un bonheur relatif, et quand je l'appelle relatif, j'entends par là qu'il est doublement relatif, d'une part au cadre de cette vie, et d'autre part au fait que, puisque c'est la question de la nature des choses que je voudrais creuser, je voudrais m'interroger sur les biens de cette nature. Je n'exclus évidemment pas la possibilité de la béatitude, mais je dis que le philosophe, de façon plus modeste, s'interroge sur le bonheur tel qu'il est immédiatement à notre disposition et en tant que le cadre ordinaire de ce bonheur est notre vie avec sa relativité. La troisième chose dont je parlerai fort peu, c'est de la chance. Peut-être y a-t-il parmi vous des gens qui sont convaincus que le bonheur, c'est une affaire de chance. Et qu'ils seraient capables de me dire, sortant un billet de leur poche, « Voyez, j'ai gagné la super cagnotte de l'euro. Ça, c'est une question de chance. » S'il y a parmi vous ces chanceux, je les salue, je me réjouis pour eux, mais je ne parlerai pas de cela. Pour deux raisons. D'abord parce que je ne suis pas convaincu que ce soit nécessairement un bonheur que de gagner la super cagnotte. Je ne dis pas que c'est un malheur, mais ce n'est pas nécessairement.